Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Comment avez-vous vécu ce mois de novembre? À la fois maussade, gris, pluvieux, parfois très froid, avec des jours qui raccourcissent à vue d'œil. Le mauvais temps a-t-il une influence sur votre morale? Votre humeur est-elle indexée sur le niveau des températures et le degré de luminosité? Nous verrons ce matin comment la météo peut réguler le baromètre subtil de nos émotions, comment la chaleur ou le froid affectent nos comportements. Psychologiquement, sommes-nous les mêmes en hiver et en été, comment fonctionne une déprime saisonnière? Pourquoi certains phénomènes venteux créent des agacements, des énervements, comme le veulent certaines croyances populaires à propos du vent d'automne ou du mistral? Coup de projecteur également sur la météo de nos émotions qui varie indépendamment du temps qu'il fait. Avec nous ce matin, le spécialiste des émotions, Ilios Kotsou, l'ingénieur prévisionniste Louis Baudin et la journaliste Christina Pelledouel. Et comme tous les mardis, bien sûr, Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Êtes-vous météo sensible, un peu, beaucoup, passionnément ou alors pas du tout? Contactez-nous au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook. De grands bien vous fassent. Dites-nous également si le réchauffement climatique vous rend anxieux. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Un sujet en or pour vous ce matin. Quel est le menu de vos choses vues?
Eh bien, un menu simple. Nous irons à Nantes avec Barbara et nous nous demanderons pourquoi il existe des humains météo-sensibles et d'autres météo-impassibles.
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'enfant.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Louis Baudin.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur prévisionniste, météorologue, présentateur des bulletins sur TF1 et vous venez de publier chez Albin Michel « Nous sommes tous météo sensibles ». Bonjour Ilios Kotsou.
Bonjour.
Je crois que ça va bien. Après avoir été chercheur en psychologie des émotions à l'université catholique de Louvain en Belgique, vous avez publié de nombreux ouvrages sur les émotions. Dernier ouvrage paru, Transmettre chez J'ai lu. Bonjour Christina Pelledouel.
Bonjour Ali.
Chef de la rubrique livre à Psychologie Magazine, vous évoquerez tout à l'heure le formidable dictionnaire des émotions de l'historienne Tiffany Watt-Smith, publié chez Zulma. Louis Baudin, alors pour vous, qu'on le veuille ou non, il est impossible d'échapper à la météo qui conditionne souvent notre morale.
Mais oui, hein, on vit dans cette atmosphère hein, depuis qu'on est. Hein, on est dans l'air, on est dans l'atmosphère, on respire cette atmosphère, hein, 10, 15 000 litres d'air par jour. Donc évidemment, qu'on le veuille ou non, on vit et on fait avec cet environnement. Alors c'est vrai qu'après, on est plus ou moins sensible, moralement, parce que physiquement, là pour le coup, physiologiquement, on vit avec cette atmosphère, donc on subit, ou en tout cas on traverse ces variations de pression, de température, d'humidité. Donc notre organisme fluctue un peu au gré de ces variations de température et de pression.
Et ça influence notre digestion, notre respiration, notre sommeil lié à la pression atmosphérique, au vent, à l'humidité?
Ah, exactement, parce que alors là, les médecins sont évidemment plus amènes que moi de préciser ça, mais c'est clair qu'une variation de pression joue sur l'organisme. Hein. On a une pression d'un kilo par centimètre carré, il faut le savoir. Alors naturellement, c'est équilibré par notre organisme, mais quand cette pression varie un petit peu, forcément, le corps se rétrécit ou augmente. D'ailleurs, quand vous allez à la montagne, vous dites souvent, mais je rentre plus dans mes vêtements. C'est tout simplement physique. Ouais, effectivement, il y a un peu moins de pression, donc on gonfle un petit peu.
Pas qu'à la montagne. Christophe André.
La montagne.
Oui, c'est vrai que ces questions de météo, les médecins et les psychologues commencent à s'y intéresser de façon plus rigoureuse qu'avant. Autrefois, c'était du folklore, de la conversation, du vécu subjectif des patients. Et effectivement, ça vaut le coup de conduire quelques études, enfin beaucoup d'études d'ailleurs, il en existait énormément, à ce propos et qui donnent des résultats contrastés d'ailleurs.
Et puis, n'oublions pas, Louis Baudin, qu'au cours de l'évolution humaine, la météo a lentement façonné certaines caractéristiques physique, mais elle a également façonné notre rapport au monde. Certaines peuplades du monde sont façonnées par la météo. Les populations scandinaves n'ont pas exactement le même rapport au monde que les peuples qui vivent à l'équateur.
Ah ben exactement, hein, là les fourchettes de température sont totalement différentes hein, là où on vit. Donc forcément, au fil du temps, les organismes se sont adaptés, la physiologie s'est adaptée pour mieux supporter les températures basses. Et à l'inverse, quand on est sous les tropiques, évidemment, là aussi, petit à petit, l'organisme s'est adapté. Donc c'est pour ça d'ailleurs que cette météo-sensibilité, suivant sa provenance, sa culture, son histoire, peut être totalement différente. On le voit bien en France, entre le nord et le sud, comme dans le nord on supporte beaucoup mieux des températures un petit peu basses et puis un peu plus compliquées en Méditerranée, puis l'inverse pour les températures très élevées. D'ailleurs les seuils de canicule ne sont pas les mêmes en matière de température, donc on tient bien compte de cette culture entre le nord et le sud de la France.
Et puis l'un des plus grands liens sociaux, universel, c'est évidemment de parler du temps qu'il fait. Parler du temps avec des voisins, des amis, des collègues, créer des émotions positives. Et d'ailleurs, je cite Frédéric Dard qui disait que tout le monde parle du temps, les grands hommes comme les petits, c'est le sujet universel, le péché originel de la conversation.
Mais oui, parce que j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on vit tous dans cette atmosphère. Donc à un moment ou à un autre, on a été confronté à cette lumière manquante ou au contraire à ces précipitations. Donc forcément, on sait automatiquement que c'est quelque chose que l'on a tous vécu. Donc ça peut être vraiment le premier lien, le premier contact. Et effectivement, très souvent, dans les toutes premières phrases, pour essayer de créer ce lien qui après va évidemment déboucher sur d'autres conversations, bah ça peut commencer à vous avez vu le temps ce matin, bah il fait froid, ça a changé. Donc c'est quelque chose d'universel. Donc c'est forcément quelque chose où on est sûr qu'on va pas tomber à côté. Si on parle de ça, on sait qu'il va y avoir forcément une réaction et
mais
ça peut commencer.
Ce n'est pas un sujet si banal que ça.
Alors après, évidemment, il peut l'être quand ta journée est un peu moyenne, entre guillemets, mais elle l'est rarement. Donc, il y a toujours un moment où il fait un peu trop chaud, un peu trop froid, où on subit un changement un peu différent. Il peut y avoir une surprise aussi, parce qu'on s'y attend pas, parce qu'on s'est un peu trompé. Donc, forcément, ça, très vite, ça peut ne pas être banal.
Oui. Ilios Kotsou.
Moi, j'ai l'impression que depuis toujours, on fait un lien entre la météo extérieure et notre météo intérieure. On dit avoir le moral au beau fixe, il y a de l'électricité dans l'air, on est d'humeur printanière, on a la tête dans les nuages. Et quand j'entends Luc parler de ce... C'est bien, parler du temps, ça crée du lien. Et en même temps, on pourrait se dire que les gens, les êtres humains qui râlent beaucoup sur le temps, c'est parfois le symptôme d'un déséquilibre intérieur et que c'est moins impliquant. C'est plus facile de parler du temps que d'exprimer clairement ce qui se passe en moi à l'intérieur. Et donc oui, ça parle de nos relations sociales, ça parle aussi de l'incapacité qu'on a parfois à parler vraiment de manière plus fine de notre vie intérieure, des sentiments, de ce qui se passe à l'intérieur de nous.
Et puis n'oublions pas que notre état d'esprit, notre humeur colore notre regard sur le temps qu'il fait. Si je sors de chez moi agacé sous une pluie glacée, il y a de fortes chances que je peste contre cette pluie. Si en revanche je sors de chez ma moitié heureux, je pense tout de suite à danser même s'il pleut. Enfin, notre humeur impacte notre regard sur le temps qu'il fait.
Notre regard de manière très très concrète, même au niveau visuel, les couleurs qu'on est capable de voir, donc l'humeur va changer les couleurs qu'on est capable de percevoir. Et donc quand on est d'humeur maussade, on va plutôt voir le monde en gris, mais c'est réel, ce n'est pas seulement une image qu'on apporte de cette manière-là. Et donc bien sûr qu'il y a une boucle entre nos états émotionnels, la manière dont on voit le monde, et qui va renforcer les états émotionnels. Et donc des personnes d'humeur maussade vont tendance à être plus réactives, à voir les choses plus tristes, à avoir plutôt un regard... elles vont plus vite détecter ce qui ne va pas bien.
Vous l'avez constaté, vous, dans votre cabinet de psychiatre, Christophe André, le fait que le temps qu'il fait amplifie nos émotions, positives ou négatives.
Alors, ça, c'est vraiment, ça dépend énormément des personnes. Et comme le disait Ilios Kotsou, on a le sentiment que, finalement, moins une personne a le sentiment d'avoir un contrôle sur sa vie, plus elle se sent un peu victime des événements en général, plus, effectivement, elle se sentira affectée par la météo. Je pense que c'est peut-être pour ça, mais je voudrais pas me mettre à dos les personnes âgées, que souvent, ce sont les personnes âgées qui sont très touchées par la météo. D'abord, parce que leur santé est plus fragile, effectivement, elles parlent de leur rhumatisme, etc., etc., mais aussi parce que il y a moins de choses prenantes, absorbantes qu'elles contrôlent dans leur vie, et donc elles sont très, très touchées par les événements, les bains dans lesquels elles évoluent. Mais il n'y a pas que ça, et c'est vrai que ce thème du temps, on peut dire aussi que c'est une entrée en matière. Il y a un bouquin de psychologie célèbre aux États-Unis qui s'appelait « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» Bah, c'est vrai qu'après avoir dit bonjour, on ne va pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on cherche comme ça des zones partagées dans la conversation.
Est-ce qu'on peut préciser ce qu'est l'humeur ?
Ben, l'humeur, puisqu'on est en train de parler du temps, pourrait dire que c'est notre météo mentale. Finalement, c'est un peu comme la météo d'ailleurs. C'est une sorte de bain émotionnel de basse intensité dans lequel on flotte en permanence, dont on n'est pas toujours conscient. C'est vrai qu'on n'est pas toujours attentif au temps qu'il fait, sauf s'il est extrême, mais qui influence tout de même notre regard du monde, nos comportements, notre façon d'échanger avec les autres, notre motivation à agir. Et c'est vrai que cette météo mentale, alors peut-être, moi c'est mon défaut professionnel évidemment, Louis Baudin qui est plutôt météorologue insiste sur la météo extérieure, moi j'insiste sur la météo interne. Je pense qu'elle pèse peut-être souvent plus lourd que la météo extérieure, comme vous le disiez dans vos exemples, hein, l'état de forme dans lequel je me trouve peut représenter quand même une sorte d'immunisation contre les aléas climatiques, à condition qu'ils ne soient pas extrêmes, évidemment.
Christine Lapelle-Edouel, vous allez évoquer tout au long de cette émission le dictionnaire des émotions de l'historienne de la culture Tiffany Watt-Smith. Je cite son introduction. « Levez les yeux, regardez les nuages, sont-ils gris et graves dans un ciel sans vent, ou bien flottent-ils, légers, emportés par une brise ?» Et de rappeler que, par exemple, pour le peintre John Constable, le ciel était plein d'émotions.
Ah oui, mais ce livre est un, il faut le dire, hein, c'est un délice. Ce livre, on peut se plonger, picorer, etc. Elle fait un état des lieux, des émotions telles que nous les connaissons aujourd'hui, parce qu'il faut se souvenir que les émotions, la notion même d'émotion est très récente, hein, très très récente. Elle n'est apparue réellement dans l'histoire humaine qu'au XVIIe siècle en tant que telle. Et c'est notre ami, ça y est, son nom m'échappe, mais ça va revenir tout de suite, Darwin, qui est le premier scientifique à s'intéresser vraiment aux émotions et à en faire un sujet d'étude en 1830. Vous vous rendez compte, publié en 1872. Donc c'est vraiment extrêmement, extrêmement récent. Avant, on parlait d'autre chose, on parlait d'humeur. Pas d'émotion, d'humeur, dont la fameuse mélancolie, hein, l'humeur noire, très célèbre au XVIIe siècle, si célèbre que Dürer en a fait un tableau absolument extraordinaire, magnifique, qui est reproduit un petit peu partout. Donc c'est vraiment très récent, c'est une notion très très moderne.
Et les peintres ont su admirablement dépeindre les liens entre le temps qu'il fait et nos émotions.
Et nos humeurs intérieures, notre météo intérieure, et en particulier en effet les impressionnistes, puisque les impressions, les émotions sont des choses qui sont très très proches. Et puis les peintres paysagistes, en effet, les peintres anglais en particulier, une exposition qui se déroule en ce moment au musée du Luxembourg, ont été les premiers Turner. Constable que vous avez cité, ils ont été les premiers. Puis les peintres paysagistes de l'école de Barbizon, hein, Millet, Rousseau, qui sont les pré-impressionnistes, puis les impressionnistes. Et c'est vraiment quelque chose qui a aussi à voir avec le mouvement allemand des pré-romantiques, hein, le Sturm und Drang, et qui aussi, dans la musique, a eu quelque chose à voir avec les émotions et avec le temps. Je pense au Voyage d'hiver de Schubert, qui est entièrement sur cette impression météorologique de ce qui se passe autour de nous dans le ciel, les nuages, la lumière extrêmement importante, la lumière extérieure qui répond à la lumière intérieure ou à la pénombre intérieure.
Allez, êtes-vous météo sensible? N'hésitez pas à nous contacter au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier. Écoutons une chanson de 1968. Cette année-là naissait la chanteuse Kylie Minogue et disparaissait Martin Luther King. Belle journée à l'écoute de France Inter.
On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tué par des rêves chimériques. Écrasé de certitude dans un monde glacé de solitude. Sa voix, si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard, je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Et le silence me répond. Chester, England, England. Manchester, England, England. Au bout de l'Atlantique,
Christophe André, vous dansiez sur Laissons entrer le soleil de Julien Clerc dans les surbooms de 1968.
C'est sympa de me rappeler mon âge. Mais oui. On écoutait en français à l'époque, on écoutait rarement la musique en version anglaise et tout était traduit. C'était pas mal d'ailleurs, c'était savoureux, c'était Julien Clerc, si je me souviens bien.
Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures?
Mais je pleure pas, c'est la pluie!
Grand bien vous fasse.
Et voilà ce qui est Fontaine Wallace. C'est vous dire si j'étais prédestinée aux larmes.
Sur France Inter.
10h24, êtes-vous météo sensible? Contactez-nous au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand bien vous fasse.
Un froid glacial s'installe sur la France.
Ça gèle ce matin.
J'ai froid. Moi aussi.
J'en ai marre de ce temps. C'est horrible.
Alors la zone la plus froide de France, elle est dans l'Est, comme sur ces images de la commune de Metz. Moins 20 en température ressentie ce matin.
Ça fait 15 jours que c'est gris, qu'il pleut, que c'est plombé. On n'a pas eu 5 minutes de soleil. C'est déprimant, je suis désolée.
Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Pour une fois qu'il pleut pas.
Mais je sens plus mes pieds.
Allons faire un tour, ça nous réchauffera.
Non merci.
Moins 15 dans l'après-midi, couvrez-vous.
C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse?
On avait dit que si le temps se levait, on irait faire une cueillette.
Une cueillette de quoi?
Champignons!
En plus, à chaque fois, tu te plains comme s'il faisait moche exprès contre toi, comme si, je sais pas moi, il y avait un dieu du climat qui t'en voudrait personnellement.
Il y a un dieu du climat qui m'en veut personnellement.
Comme vous le voyez, tout est gelé.
Ce froid sibérien devrait se poursuivre jusqu'à la fin de semaine au moins, avec des gelées généralisées sur tout le pays.
Ça caille.
Quel temps bizarre aujourd'hui! J'ai dit une bêtise?
Non, mais jusqu'à présent, personne n'a passé la porte sans nous faire la météo.
Eh oui, c'est l'angoisse du temps qui passe qui nous fait en parler du temps qui fait.
Medley signé Stéphanie Texier, Elias Kotsou, c'est l'angoisse du temps qui passe qui nous fait tant parler du temps qu'il fait, comme le dit le personnage du fabuleux Destin d'Amélie Poulain.
Peut-être. Alors moi, je voyais deux grands éléments qui lient les émotions et le climat. Il y en a un qui est biologique. La dépression saisonnière, elle existe. Elle est due notamment au manque de luminosité. On sait que c'est beaucoup plus présent, plus on s'éloigne de l'équateur. Et donc, ça ressemble. Il y a vraiment les vrais symptômes de la dépression. Il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on invente. Donc, il y a peut-être entre 3 et 7% de la population qui sont atteints et donc qui ont tout à coup plus d'appétit, qui veulent manger très sucré et très gras, qui sont irritables et ainsi de suite. Et puis, il y a un autre chemin qui est psychologique et qui est aujourd'hui avec les changements de température. Le climat nous dit qu'il y a un vrai problème sur la planète et le fait d'avoir des angoisses, d'avoir une forme de peur, eh bien c'est important. Ça nous amène à, ça nous dit qu'il faut agir, qu'il faut faire quelque chose. Et donc les changements de température nous alertent sur des changements réels qu'il faut mettre en place. Et puis il y a des raisons biologiques. Alors Christophe André sera meilleur que moi pour en parler, mais on sait qu'il y a des personnes plus fragiles, qu'il y a un problème dans les transporteurs d'un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine, qui va faire qu'on est davantage affecté par le manque de luminosité.
Et oui, Christophe André, pourquoi certains sont-ils plongés dans une déprime, voire une dépression saisonnière dès le mois d'octobre-novembre jusqu'au retour des beaux jours, et d'autre part, quelles sont les explications scientifiques de ces troubles affectifs saisonniers? C'est comme ça qu'on les appelle dans votre jargon.
Oui, ben le jour où on les aura complètement, ça sera une très bonne nouvelle pour eux, parce que pour l'instant, on en est réduit à les soigner avec de la photothérapie, on les met devant des lampes très puissantes, tôt le matin, pour recaler leur horloge biologique, des lampes qui doivent reproduire le spectre de la lumière naturelle. Vous savez que souvent, l'éclairage artificiel pose ce problème, qu'il ne nous arrose pas suffisamment avec un spectre lumineux semblable à celui du soleil. Mais ce qui est très compliqué dans toutes ces études, lorsqu'on relève un impact réel, statistiquement confirmé et puissant de la météo sur notre santé, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a toujours des facteurs directs et indirects. Par exemple, les études qui montrent que la pleine lune a un impact sur notre comportement, sur certains patients bipolaires, etc., qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un impact direct de la Lune? On pense que probablement pas, mais est-ce qu'il y a un problème de luminosité? Là, il fait moins sombre dans notre chambre, donc on dort moins bien. Et si on dort moins bien, évidemment, ça va entraîner toute une cascade de perturbations. Le froid qui perturbe, qui modifie certaines variables de notre santé, c'est aussi parce que quand il fait très froid, on a tendance à vivre plus souvent enfermé, exposé aux polluants domestiques, à manger des nourritures plus calorique, trop calorique peut-être. Donc c'est vrai que ce sont des facteurs très très complexes à désintriquer.
Et puis n'oublions pas que le froid, la pluie impactent notre mobilité et que ça peut affecter notre morale car il y a moins d'interactions sociales à la clé, Louis Baudin.
Oui, exactement. C'est vrai que alors après là, c'est tout simplement pratique. C'est vrai quand on a notamment en France des épisodes de neige, de froid, forcément on va moins bien se déplacer, donc forcément ça peut poser des problèmes par rapport à sa famille. Est-ce qu'il va pouvoir être là, les problèmes de sécurité, problèmes. Donc là, il y a un impact beaucoup plus direct, matériel. Là, on n'est plus dans un rapport qui soit plus mental, mais c'est vrai que ça existe aussi et que là encore, en fonction de notre culture, notre habitude ou pas, être confronté à ce type de situation, eh bien, on le vit plus ou moins bien là concrètement, parce qu'on pense effectivement avec le froid notamment à sa famille, est-ce qu'elle va bien. On va penser à l'appeler, on va donc avoir là forcément des comportements un peu différents et probablement des inquiétudes quand c'est quelque chose auquel on n'est pas confronté souvent.
Bonjour Marie, bienvenue.
Bonjour.
Alors, on écoute votre témoignage.
Le témoignage concerne une heure particulière en fait, qui est entre chien et loup, quand le soleil est couché mais qu'il ne fait pas encore nuit. Mm-hmm. Voilà. Et moi, j'ai des troubles de l'humeur, donc j'ai été diagnostiquée bipolaire et c'est une heure particulièrement sensible. Il paraît qu'elle l'est pour les enfants dans les crèches et également chez les personnes âgées dans les maisons de retraite. Et c'est une heure qui est assez difficile à gérer, dans laquelle il y a un sentiment d'excitation particulier qui ne permet pas en même temps la concentration. Voilà, c'est un petit peu un témoignage. Je viens du Pacifique Sud. À laquelle cette heure ne dure pas très longtemps dans le Pacifique Sud, que ce soit au Vanuatu ou en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est plus facile, mais ici en France, en métropole, pardon, avec les saisons, elle est particulièrement aiguë et compliquée à vivre. Voilà, c'était un témoignage sur, je ne sais pas si ça vient de l'heure, de la lumière ou de l'arrivée de la nuit, mais...
Louis Baudin acquiesce.
Oui, alors déjà géographiquement, c'est-à-dire qu'effectivement quand on est à proximité de l'équateur, le lever et le tomber du soleil arrive beaucoup plus vite. Donc forcément cette phase-là dure moins longtemps que, et plus on remonte vers le nord, et puis il peut même y avoir cette période durant l'été où la nuit n'apparaît plus. Enfin, il y a un peu de pénombre, mais il n'y a pas de vraie nuit. Et entre les deux, c'est vrai que cette phase entre chien et loup peut durer longtemps. Donc quand on y est sensible, et effectivement, je crois qu'on est tous. Il y a cette peur de la nuit qui arrive, il y a cette phase un peu intermédiaire. Et donc je pense que là encore, quand on est déjà soi-même sensible, c'est peut-être une période un peu compliquée.
Ouais. Marie, vous nous avez dit, hors antenne, que vous avez été diagnostiqué bipolaire. Est-ce que la météo, de façon générale, joue sur votre bipolarité ?
Est-ce que la météo joue ? Oui, puisque j'ai effectivement des périodes de l'année, puisque maintenant je me connais quand même un petit peu, des périodes de l'année dont je sais que je vais me faire hospitaliser ou du moins suivre de manière plus précise, parce que ce sont des périodes sensibles et ce sont les changements de saison. C'est le fait de changer. De toute façon, la bipolarité, tout ce qui est changement est difficile et compliqué en tout cas. Donc le changement de saison joue effectivement beaucoup, plus que pendant la saison elle-même.
Peut-on dire, Christophe André, que la météo joue sur les personnalités fragiles ou fragilisées ? Qu'aviez-vous constaté lorsque vous consultiez à l'hôpital Sainte-Anne ?
Ah, ça, pour les bipolaires, c'est vrai qu'ils se sont des patients très très intéressants parce qu'ils sont d'une très grande réceptivité, d'une très grande sensibilité à leur environnement, que ça soit l'environnement social, que ça soit l'environnement climatique. Et effectivement, tout ce qui est changement de rythme, tout ce qui est modification de rythme, alors une fois qu'ils sont en rythme de croisière, ça peut aller, si ce rythme n'est pas trop pathologique, mais dès qu'il y a des changements, des nuits trop courtes, une multiplication des contacts sociaux, une intensification du travail, ils sont en danger. Ça, alors c'est vrai, spécifiquement pour les bipolaires, et concernant ce que disait Marie sur les changements de lieu, moi j'ai un souvenir personnel de plusieurs voyages près du pôle Nord, en Laponie, au Cap Nord, avec ce soleil qui ne se couche que vers minuit, 1h du matin, qui me mettait dans un état d'excitation, et je pense que si j'avais eu la fragilité de la bipolarité, ben je me serais retrouvé à l'hôpital de local.
Qu'est-ce que ça doit être, un Christophe André excité? Louis Baudin.
Oui, non, revenir sur les changements, on se rend pas compte quand on est aux latitudes tempérées, quand on est en France, qu'on a effectivement les quatre saisons, même s'il peut y avoir des fluctuations. Quand vous vivez plus près des tropiques, eh bien, c'est le même temps toute l'année, hormis période cyclonique. Donc, il est probable que puisse là y avoir des perturbations quand on, effectivement, on passe de l'un à l'autre, d'ailleurs, hein. Ça peut valoir peut-être dans l'autre sens. Moi, je suis pas sûr de pouvoir supporter toute l'année 30 degrés, 80% d'humidité, parce que j'ai été habitué à ces changements de saison et il y a probablement la réciproque.
Merci beaucoup Marie d'être intervenue. Marie-Laure Sonnenschein de Femme Actuelle.
Oui, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, c'est le vent. Ah, et oui. Vous l'expliquez bien dans l'ouvrage, c'est celui qui a le plus d'influence sur notre humeur. Alors vous allez nous parler, nous expliquer, suivant qu'il est chargé en ions négatifs ou positifs. Oui. Tout ce joue là, on a ces terminaisons nerveuses qui sont agressées, les cheveux, la peau, enfin les yeux, c'est insupportable le vent.
Ah, chez moi, Toulouse, c'est le vent d'automne. Hein,
oui, c'est le vent d'automne.
Et dans le sud-est, c'est le mistral plutôt qui rend un peu fou, qui rend fada. Louis
Baudin. Oui, on dit que les vents de terre, ceux qui viennent essentiellement de la terre, ne sont pas chargés justement des bonnes ondes ou des bonnes ionisations, entre guillemets. Et donc, ce sont les vents qui rendent fou. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent ça, dans la vallée du Rhône, hein, où le vent fort peut souffler 300 jours par an, si vous n'y êtes pas habitué, ça va être très compliqué. Passer 4-5 jours de vent continu, effectivement, ça tape sur le système, comme on dit. Alors qu'on supporte beaucoup mieux, d'ailleurs, ça se voit, quand il y a une tempête qui arrive donc de l'Atlantique, on a beaucoup moins ces réactions, même si ça souffle pendant 2 ou 3 jours, parce que c'est un vent qui est effectivement chargé en iode, qui est différent, et qu'on accepte un petit peu mieux que ces vents chauds, que ces vents de terre. Quand je dis vent chaud, c'est en période d'été où le mistral est un vent très chaud, très desséchant et qui est très vite effectivement insupportable pour l'organisme.
Et que dire du sirocco?
Sirocco, alors là, c'est un vent un peu différent. C'est vrai que le sirocco qui vient du sud, quand il est sur sa partie terre, quand il est encore sur le continent et sur le Nord-Afrique, eh bien là, effectivement, ça peut être un vent, mais vraiment là aussi très désagréable. Alors quand il a traversé la Méditerranée, bah, c'est un vent qu'on accepte un petit peu mieux. Bon, bah, c'est aussi un vent qui apporte parfois de l'air un peu plus chaud et on l'attend parfois en France.
Christophe André, quelles sont les explications scientifiques?
Là encore, c'est un grand mélange. Moi, je me souviens, puisque j'ai fait mes études de psychiatrie à Toulouse, où souffle le vent d'automne, c'est un vent chaud, très dérangeant, très fort, que les Toulousains n'aiment pas du tout. vous savez ça, Ali. Une sorte de légende, alors on ne parlait pas de légende urbaine à l'époque, disait que ça, les périodes de vent d'automne, les urgences étaient débordées, les admissions, notamment les urgences psychiatriques, étaient débordées. Et puis, un jour, un de mes copains a fait une thèse là-dessus, a épluché toutes les annales des entrées et on a conclu que c'était pas vrai, ça ne marchait pas comme ça et simplement c'était un biais de remémoration, on se souvenait plus que Tata Yvette ou Tonton Georges avait été embarqué pour l'hôpital Marchand, l'hôpital psychiatrique, les jours de vent d'automne et puis les jours où au fond il faisait grand beau, on n'avait pas mémorisé ça. Donc là encore, il est possible qu'il existe des influences biologiques, mais elles ne pèsent pas forcément si lourd, plus lourd que le conflit qu'on vient d'avoir avec quelqu'un, que les 3 nuits d'insomnie pour d'autres raisons, etc. C'est là où c'est très compliqué. Et alors, autant on peut identifier ça dans des études de laboratoire où toutes les autres variables sont neutralisées, où on ne se concentre que sur le vent, autant dans la vraie vie, c'est difficile à démontrer.
Oui, mais je reprends Tata Yvette, si vous permettez.
Merci.
André, on va lui donner la place qu'elle mérite à Tata. Les rhumatismes de Tata Yvette, qui nous dit, le temps va changer, j'ai mal au genou. Elle a raison ou pas?
Oui, alors elle a raison. Alors là
et
aussi,
ça influe sur son moral, forcément.
Les études sont parfois un peu contradictoires, c'est vrai. Mais quand même, il y a au moins une raison physique. C'est-à-dire que quand on a des variations de pression ou encore d'humidité, là, pour le coup, on a la preuve, hein. C'est-à-dire que nos molécules sont modifiées, bougent. Et donc, forcément, pour des périodes ou des zones qu'on a un peu plus fragile sur son corps, eh bien on peut à ce moment-là subir ou ressentir ces variations. Donc ça a été constaté. Ça, il est vrai que... Alors, là encore, il faut faire attention parce que ça va dépendre du moment où on est fragilisé. Il va falloir faire attention à ces variations de pression. Il faut quand même que ce soit des variations de pression sensibles. Mais ça arrive en France. Hein. On peut passer très rapidement d'un système, ce qu'on appelle dépressionnaire, où la pression va descendre jusqu'à 980, 990 hectopascales. La pression moyenne, c'est 1013. Donc, vous voyez que ça fait quand même des variations importantes. Puis, hop, d'un seul coup, on va reprendre des pressions beaucoup plus élevées en devenant anticyclonique. Mais là, dans ces phases-là, forcément, l'organisme subit des variations qui peuvent être importantes. Et donc, sur des parties un peu fragilisées, on le ressent. Ça provoque une douleur ou une gêne.
Et c'est pour ça que Tata Yvette était souvent de mauvaise humeur. Allez, il est temps de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es
médecin, psychiatre.
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute.
Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Chose vue.
Les choses vues de Christophe André.
Ah, la météo, le temps qu'il fait, qu'il a fait ou qu'il va faire, hors actualité brûlante, c'est le sujet de conversation numéro un entre les humains. Et sans doute depuis longtemps. C'était très important à l'époque où nous vivions dans des abris rocheux ou des cabanes pas tellement étanches et pas du tout chauffées. À l'époque où l'essentiel de nos activités se déroulait en plein air. Le temps qu'il faisait pesait alors totalement sur nos activités quotidiennes. Mais ça reste aussi le cas aujourd'hui. Alors que nos maisons, quand on a la chance de ne pas dormir à la rue, nos maisons sont confortables et nous protègent des aléas du climat, alors que nous avons toute une garde-robe de vêtements nombreux et adaptés, et surtout alors que les bulletins météo font partie des programmes les plus écoutés, tous médias confondus, et que nous savons tout sur le temps qu'il va faire avant même d'avoir mis le nez dehors. Alors, pourquoi revenons-nous inlassablement sur le thème du temps qu'il fait ? D'abord parce que tout simplement nous vivons sous le même ciel et au même endroit que les gens que nous croisons. Ensuite, parce que c'est un sujet simple, assez consensuel, accessible à tous, sans distinction de diplôme ou de milieu social. Et peut-être aussi, enfin, parce que, tout de même, nous avons l'impression que c'est important, que cela joue grandement sur nous. Le beau temps nous permet un beau moral, le sale temps nous met le moral en berne.
Il a plu sur Nantes, donne-moi la main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue.
Le ciel de Nantes.
Ça me galvanise cette chanson.
Oui, mais ça fait partie de la vie. C'est une chanson magnifique qui dit beaucoup de choses de Barbara et puis qui parle du sujet du jour. Hein, voilà, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Mais est-ce qu'elle est fondée, cette relation entre le climat et le moral? Subjectivement, oui, pour la plupart d'entre nous. Mais notre subjectivité nous dit aussi que la Terre est plate, parce que si elle était ronde, nous tomberions. Alors, en réalité, les études scientifiques ont plutôt du mal à mettre ces effets en évidence et montrent qu'ils sont réels chez certaines personnes, mais globalement, pour tous les autres, plutôt faibles. Ainsi, selon une étude néerlandaise conduite pendant un mois auprès d'environ 500 adolescents, il semble exister quatre grandes familles de personnes. Le plus nombreux, la plus nombreuse, environ 50%, ce sont les personnes peu sensibles au temps qu'il fait, peu influencées par lui. Puis, les trois autres familles y sont par contre plus sensibles. Il y a les summer lovers qui se sentent mieux quand il fait chaud et sec, les summer haters, ceux qui détestent l'été et qui sont mal, au contraire, quand il fait chaud et sec, les rain haters, hein, je parle anglais parce que c'est comme ça dans l'article, ceux qui détestent la pluie, qui sont mal quand il pleut, qu'il fait humide et gris. Sans doute, est-ce comme cela qu'il va falloir étudier désormais l'impact de la météo sur des échantillons de populations spécifiques? Par exemple, chez des personnes fragiles, on a retrouvé plus de décompensation de maladies bipolaires quand il fait chaud. Mais est-ce l'effet direct des températures ou bien une simple conséquence du fait que quand il fait chaud, on dort moins bien et que le manque de sommeil est un facteur de rechute chez ces patients bipolaires? On retrouve aussi plus de tentatives de suicide au début des périodes ensoleillées, figurez-vous, les 3-4 premiers jours, ce qui est contre-intuitif. Alors qu'ensuite, l'effet s'inverse, c'est-à-dire que l'ensoleillement prolongé va alors nous protéger sur la durée de l'impulsion suicidaire. Ça, c'est un peu ce qui se passe aussi avec les antidépresseurs. Le risque suicidaire est le plus important lors des 3-4 premiers jours de prescription, alors qu'ensuite, on a évidemment, c'est pour ça qu'on les prescrit, un effet protecteur. Donc là, on a sans doute un effet biologique direct du soleil sur nos neurotransmetteurs. Donc, dossier passionnant mais complexe. Cependant, nous avons aussi fort heureusement d'autres sources d'équilibre intérieur disponibles et qui pèsent sans doute plus lourd encore que le temps. Ainsi, une bonne nouvelle me rendra la pluie indifférente, voire plaisante, et un échec me fera insensible au soleil. Allez, mieux vaut construire nous-mêmes notre bien-être intérieur et notre météo mentale, quitte à savourer ensuite, librement, celle qui nous arrive du ciel. Car finalement, mieux vaudrait tout aimer. Pour la nature, il n'y a pas de beau et de mauvais temps. Tous sont utiles et tous sont admirables. C'est ce que nous suggèrent les poètes, comme Christian Bobin. Moi, je ne maudis jamais la pluie, cette petite sœur déshéritée du soleil. Et vous, Ali, vous êtes météo-sensible ou météo-impassible ?
Les deux.
Oh, un grand sensible, allez, ne nous mentez pas.
Allez, les choses vues de Christophe André à voir en vidéo sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bain vous fasse. Êtes-vous météo-sensible ? Contactez-nous sur l'appli France Inter, au standard de France Inter, 01 45 24 7000. Céleste interprété She's My Sunshine.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebille.
10h47, êtes-vous météo sensible? Contactez-nous au 01 45 24 7000. Et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse, Johanna nous dit que la simple idée de l'orage fait surgir en elle un vrai sentiment de panique qui la rend invivable avec ses proches. Louis Baudin, évidemment, je rappelle que vous êtes l'auteur de Nous sommes tous météo sensibles. Cette terreur est ancestrale, la terreur que le ciel nous tombe sur la tête.
Oui, elle est justifiée parce que l'orage est un des phénomènes qu'on retrouve dans beaucoup de parties du monde, hormis peut-être dans l'extrême nord et encore. Et effectivement, c'est un phénomène qui peut être dangereux, qui est à la fois commun et qui peut être dangereux si on est sous l'activité orageuse, sous les éclairs, sous des pluies diluviennes. Aujourd'hui, on se déplace en voiture, c'est brutalement sous un orage la possibilité d'avoir des chaussées inondées, dangereuses. Donc oui, c'est normal que l'on ait peur. Je trouve même que c'est assez sain. Là, pour le coup, je trouve que c'est du bon sens que de se dire sous un orage, hop, je vais plus avoir le même comportement qu'en dehors, ce que je ne vois pas toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, au contraire, ça m'angoisse beaucoup, qui eux traverse un orage, disons, non, tout va bien. Non, sur un orage, il peut y avoir de fortes rafales de vent. Il peut y avoir donc les éclairs qui peuvent être dangereux pour l'homme, des inondations brutales, mais ça dure pas très longtemps. Donc c'est normal. Bon, faut pas que ça tourne à la psychose, mais c'est normal.
Élise nous dit, je suis un véritable baromètre. Avant un orage, je sens une profonde fatigue et l'impression d'avoir pris un somnifère. Y a-t-il une explication? Christophe André.
Je pense que Louis Baudin pourrait nous la donner, mais je crois qu'avant les orages, il y a une baisse très brutale, non, de pression atmosphérique.
Exactement.
Et donc ça va être très rapide et très importante. Donc ça affecte.
En quelques minutes.
Ouais. Pierrick nous fait remarquer que la plupart des pays où l'on vit le mieux se trouvent en Scandinavie. La plupart des pays scandinaves se placent en tête des classements internationaux qui mesurent le niveau de bonheur des populations. Ilios Kotsou.
Oui, ça n'a pas grand-chose à voir avec le climat.
Exactement.
Alors on va dire que les points principaux, c'est réellement lié à une question d'équité, d'égalité. Donc plus une société est égalitaire, moins il y a de différences sociales, mieux ça vaut. Alors si on voit la Belgique, on pourrait dire un genre de cocorico pour la Belgique. On sait que la Belgique est dans les quatre pays de tête pour le bonheur dans le dernier baromètre d'Eurostat. Et on voit que le pays à la traîne, c'est la Bulgarie et la Grèce. Et quand on voit la situation de pauvreté en Bulgarie et en Grèce, et quand on voit les différences sociales, quand on voit l'injustice sociale en Bulgarie et en Grèce comparée à la Belgique et à la France, on a une explication simple. Et c'est juste pour dire aussi quelle chance on a ici d'avoir le luxe de parler des liens entre climat et notre santé morale, notre santé, alors que tellement de personnes dans le monde, pour eux, le climat, c'est l'impossibilité de vivre. Et les chercheurs de refuges climatiques aujourd'hui sont des dizaines de millions. Bon, ils sont pas toujours très bien accueillis lorsqu'ils arrivent Porte de la Chapelle avec leur tente, mais ça risque de nous arriver aussi. Alors si on n'agit pas pour le climat réellement, peut-être qu'un jour, ça ne sera plus une chouette discussion avec lui et pas Luc Baudin, toutes mes excuses, mais ça sera peut-être une question réellement de vie ou de mort.
Pourquoi les fortes chaleurs, la canicule, influencent négativement notre humeur, Louis Baudin? Pourquoi est-on davantage irritable, colérique, quand le thermomètre monte en flèche?
On a beaucoup plus de mal à se protéger de la chaleur que du froid, par exemple. Le froid, on met des couches, on a un bon vêtement, on va le supporter. La chaleur, on peut pas y échapper. On aura beau tout enlever, on aura beau, à un moment, la chaleur sera quand même là, prégnante et difficile à supporter. Et puis, on l'a constaté. Alors ça, les Anglo-Saxons l'ont beaucoup mieux fait. Et aujourd'hui, on en fait même des seuils de vigilance et d'alerte. C'est que cette chaleur doublée d'une humidité importante peut devenir dangereuse pour l'organisme, pour les personnes les plus fragiles. Donc effectivement, c'est un des phénomènes météo dont on se protège le moins bien et dont on peut le plus souffrir.
Ouais. Christophe André, les fortes chaleurs ont un impact biologique sur le fonctionnement de notre cerveau et donc sur nos humeurs, nos émotions?
Je suis pas au courant des études sur la chaleur. En tout cas, elles ont un impact sociologique. C'est vrai qu'on note plus d'émeutes, plus de problèmes effectivement sociaux dans les grandes villes notamment lors des périodes de chaleur. Et là encore, il y a sans doute un effet biologique direct dont vient de parler Louis Baudin, mais aussi un effet sociologique. Quand il fait chaud, on sort de chez soi, on a envie de casser des bornes à incendie pour faire jaillir de l'eau. On s'énerve en groupe et puis on fait parfois des bêtises.
Et puis, les recherches menées par les équipes de la psychologue Lyuba Belkin ont montré l'impact de ces fortes chaleurs chez les individus.
Oui, ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, et on l'a presque tous vécu, quand on est dans un milieu confiné, faites monter la température, la chaleur, et vous allez voir comme l'agressivité, comme la défiance, comme vont aussitôt apparaître, effectivement, hein, dans le transport en commun, quand il fait très très chaud, on sent bien que le moindre petit débordement pourrait faire tout exploser, et effectivement, ça a été mis en évidence par des études.
Bonjour Catherine, bienvenue.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question, Catherine?
Eh bien, écoutez, moi, je voulais savoir si notre réaction à la météo a un rapport avec l'endroit où on est né. Parce que moi, je suis née à la montagne et je supporte très, très, très bien le froid. Par contre, au-delà de 27 degrés, je suis complètement liquide et c'est impossible de rien faire de moi quand il fait très chaud.
Et quand vous êtes liquide, ça donne quelle humeur, Catherine ?
Eh ben, je suis incapable de rien faire. Je me traîne, je suis vraiment, la chaleur m'abrutit totalement.
Louis Baudin.
Oh ben là, c'est clair, hein, on en parlait tout au début, en fonction de notre évolution, d'où on vient, notre histoire, notre corps, il s'est adapté, hein, quand on vit toute l'année en Norvège, en Russie, on est tous stupéfaits par ces images où on voit des Norvégiens, des Russes se baigner en ayant cassé la glace. On se dit, mais.
Ben, il reste comment... pas longtemps quand
il
même.
Il reste pas longtemps, oui, mais ils le font. Moi, je suis même pas sûr de pouvoir mettre le pied. Bon, voilà, je caricature un petit peu, mais il y a quand même de ça. Hein. Et effectivement, notre organisme, là, pour le coup, qu'on le veuille ou non, s'habitue, s'est habitué à travers plusieurs générations. Donc, c'est logique qu'on ait chacun nos seuils de tolérance, soit vers le froid, soit vers le chaud.
Il y a ce que dessous.
Je pense qu'il y a une question d'accélération de nos sociétés. Avant, il y avait un rythme horticole où on vivait en fonction des saisons. Et donc, il y avait les liens sociaux qui se mariaient avec les saisons, donc pour la solitude et pour tout ça. Aujourd'hui, on n'est même plus adapté puisqu'on peut voyager en quelques heures d'un pays à l'autre du monde. Et donc, notre corps, qui s'adapte extrêmement bien, ne s'adapte pas aussi rapidement. Et donc, le fait de ne plus être dans un rythme, entre guillemets, naturel du corps, nous crée beaucoup plus de problèmes.
Merci beaucoup, Catherine, de nous avoir appelé. Alors, Christine Lapelle-Edouel, vous avez lu le dictionnaire des émotions de Tiffany Watt-Smith, qui établit un formidable nuancier de nos émotions, formidable baromètre de nos émotions.
Un formidable baromètre. Et alors, en parlant de baromètre et de météo, j'ai trouvé des émotions extraordinaires qui concernent justement notre réaction face aux événements climatiques. Alors, je peux vous en citer quelques-uns. Et puisque nous sommes en hiver, il y a quelques émotions qui concernent justement la difficulté de nos émotions à s'accorder avec la baisse de la luminosité, le froid qui arrive, etc. Il y en a une que je trouve merveilleuse, c'est je prends ma respiration pour vous la dire, matutolipéa, c'est-à-dire la difficulté à se lever quand il fait nuit. Oula. Le matin, nous connaissons bien, pas envie, pas le courage. Et cette émotion, matutolipéa, est construite avec la racine, avec le mot, la racine de la déesse romaine de l'aurore, mater matuta. D'où le mot matutinal, et le mot grec, lipé, la tristesse. Donc en fait, c'est littéralement le chagrin du matin, le chagrin que nous éprouvons, et en particulier en hiver, puisque la lumière n'est pas encore là, et que notre corps nous dit, on reste encore un petit peu au lit s'il te plaît, mais qu'il faut quand même se lever. Une autre émotion absolument formidable, alors là, le terme scientifique peut-être est un petit peu tordu, c'est la flappitude.
Flappitude.
La flappitude, vous voyez tout ce que je veux dire, vous voyez très bien. C'est la même chose, en hiver, c'est le fait de sentir tout mou, sans entrain, sans énergie. Alors bien sûr, il y a la nostalgie, celle de l'été dernier, par exemple, hein, qu'on comprend très bien. Plus loin, la mélancolie dont nous avons déjà parlé, l'humeur noire, et puis voilà que le printemps revient. Alors là, l'humeur remonte, les émotions remontent, et nous voilà tout joyeux. La joie, c'est aussi une émotion très importante, et qui vient du mot joyau. Ça, je ne le savais pas, j'ai découvert, c'est formidable. Mais peut-être même qu'on va devenir euphorique. Alors là, c'est la joie la plus suprême. Et enfin, tout ça, au moment où le printemps revient, l'été arrive, il fait encore doux, pas encore très chaud, ben ça peut nous amener à la basorexie. Ça n'a rien de méchant, ni de maladif, c'est simplement l'envie irrésistible d'embrasser quelqu'un. Voilà.
Faites-vous plaisir, Christina. Ilios Kotsou, il y a une question de Marc qui nous demande comment surgissent et disparaissent nos émotions. Alors c'est une vaste question, il reste 2 minutes.
Vous m'avez parlé de ça alors que Christophe, André juste à côté de moi, c'est une drôle de proposition, mais on pourrait dire cette très belle métaphore du baromètre intérieur. Et donc on a comme une forme de thermomètre, de baromètre qui fait le lien entre le monde extérieur, les enjeux, les menaces et ainsi de suite, et notre monde intérieur, c'est une première chose. Et donc nos émotions nous disent, tiens, tu as besoin de quelque chose. Et donc la peur me dit, j'ai besoin de protection. La joie me dit peut-être que j'ai besoin de partage. La tristesse me dit, j'ai besoin de soins et d'être conforté. Donc c'est tellement important de les écouter, parce qu'elles nous indiquent ce qui est bon pour nous. Elles nous indiquent aussi lorsqu'on n'est pas aligné avec les directions de vie importantes. Et donc être un analphabète ou une analphabète émotionnelle, c'est pas très bon pour diriger notre vie, prendre soin de nous, prendre soin des autres, prendre soin du monde.
Louis Baudin, pour terminer, est-ce que vous êtes attentif à la sémantique, au vocabulaire que vous utilisez lorsque vous rédigez vos bulletins météo? Parce qu'il y a évidemment en tête l'influence peut-être de vos mots sur l'humeur de ceux qui vous écoutent.
Exactement, vous complètement. Alors il y a déjà la première grande difficulté, c'est de faire une bonne prévision, qui est déjà pas très simple. On n'est pas encore parfait dans le résultat. Et puis effectivement, deuxième aspect, c'est comment est-ce qu'on va raconter cette information, comment on va la transmettre, sachant qu'effectivement c'est un sujet universel et qu'il y a les optimistes, les fragiles, les pessimistes, et donc trouver ce langage commun pour donner la bonne perception, la bonne information, c'est un travail quotidien. C'est-à-dire qu'on cherche à atteindre ce langage universel, mais on n'y arrive jamais. Donc je le corrige, je travaille en permanence, justement en rencontrant les gens régulièrement. J'écoute la petite musique qu'ils me donnent, en disant tiens, peut-être qu'il faut que je corrige un peu tel mot, tel éclaircie. Bon, je vais vite, mais qu'est-ce qu'on retient d'une éclaircie, les nuages ou le soleil? Bon, voilà, c'est ce questionnement.
Et puis nous consacrerons une émission à l'éco-anxiété, hein, qui traverse nos sociétés en ce moment, l'éco-anxiété liée évidemment au réchauffement climatique. Merci beaucoup Louis Baudin, nous sommes tous météo-sensibles, comment la météo influence notre vie, c'est publié chez Albin Michel. Le dictionnaire des émotions est publié chez Zulma Essai, c'est signé Tiffany Watt-Smith. Merci Chrissy Lapelle-Edouard, merci Christophe André, Ilios Kotsou et Marie-Laure Zonshine. Une date vous vouliez donner, Ilios Kotsou?
Oui, lundi 16 décembre, je serai en conférence au Théâtre des Nouveautés à Paris à 20h.
Sur quel sujet?
Sur prendre soin de la vie, justement.
Merci beaucoup. Allez, vous pouvez poursuivre notre conversation, échanger, vous entraider sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, que vous êtes de plus en plus nombreux à consulter. Demain, avec Cerveau et Psycho, on s'intéresse aux bases scientifiques des pédagogies nouvelles, type Montessori ou Freinet. Nous recevrons Sébastien Boller et le professeur de psychologie du développement, Olivier Houdet. Questions-réactions dès maintenant sur l'appli France Inter.